Les équipes de Sciences Po Lille ont organisé avant les élections législatives une grande cérémonie de célébration des 20 ans de leur école. C'est au musée des Beaux-Arts de Lille que 1000 personnes sont venues, parfois de très loin, pour retrouver à cette occasion leurs camarades, leurs anciens enseignants, et une occasion également de retrouver les trois directeurs successifs de Sciences Po Lille, Yves Luchaire, Jean-Louis Thiébaud et Pierre Mathiot.
Pierre Mathiot, directeur de Sciences Po Lille. Donc cette soirée au musée des Beaux-Arts, c'est le dernier événement d'une série qu'on a géré tout au long de l'année dans le cadre des 20 ans de l'école. Et donc là, tout au long de l'année 2011-2012, on a organisé un certain nombre d'événements. Et là, on termine par un événement qui est destiné à nos anciens. Donc on compte à peu près 3300 anciens. Donc on a invité tous nos anciens qui maintenant vivent un peu partout en France et dans le monde à venir pour une soirée de retrouvailles au musée des Beaux-Arts, et on va accueillir à peu près entre 900 et 1000 personnes. Voilà, donc on a essayé de privatiser en quelque sorte le musée et de faire une exposition de tout ce qu'on a pu retrouver de l'école depuis une vingtaine d'années, des cartes d'étudiants, des livrets étudiants, etc. Voilà, donc on essaye d'un petit moment festif de retrouvailles.
3000 étudiants, 3000 diplômés, je présume. Est-ce qu'on a une idée après de ce qu'ils deviennent exactement sur le côté professionnel des choses ?
Oui, on en a que 20 ou 25% qui travaillent dans la région. Tous les autres sont partis. Bon, d'abord, il faut dire que la plupart n'étaient pas de la région à l'origine. Donc on a à peu près 80% des diplômés qui travaillent en France et 20% à l'étranger, au niveau européen, mais aussi un peu partout. Et après, en termes de métier, on est à peu près à 50-50 entre le secteur public et le secteur privé. Donc secteur public, c'est-à-dire les administrations, le monde de l'enseignement, l'université, etc. Puis le secteur privé, bon, dans à peu près tous les domaines, beaucoup de journalistes, beaucoup de gens dans le secteur de la communication, des ressources humaines. Donc on est une école pluridisciplinaire, assez généraliste, donc on a vraiment des profils de diplômés qui sont extrêmement variés, avec un taux d'emploi qui est assez élevé. Et maintenant, nos diplômés les plus anciens qui ont 40 ans, on en a quelques-uns maintenant qui commencent à occuper des positions de responsabilité assez, assez importantes. On en a plusieurs qui sont candidats aux élections législatives d'ailleurs, et dont certains ont des chances d'être élus députés.
Combien il y a d'écoles Sciences Po en France ?
Il y en a 9. 9, et nous sommes donc la dernière à avoir été créée avec Rennes.
Quand on est la dernière, est-ce qu'on se doit d'innover ?
On se doit d'innover. On se devait d'être connu, identifié et reconnu à l'identique des autres, même si on met Sciences Po Paris un peu de côté. Donc ça, c'est réalisé maintenant. Je pense qu'en termes de choix des IEP aujourd'hui, Sciences Po Lille est l'IEP de région le plus demandé par les étudiants. Et je pense qu'aujourd'hui, très peu d'étudiants nouveaux savent qu'on est le plus jeune. Hein, donc ça, c'est important. Après, je pense qu'en termes de style, hein, le fait d'être relativement jeune présente des inconvénients, parce que nous manquons de moyens, mais présente aussi l'avantage de nous mettre, je pense, un petit peu à la pointe de la modernité. Donc c'est vrai qu'on a été assez innovant sur la mobilité internationale, sur les problèmes de démocratisation, et c'est vrai qu'on a, je dirais, un petit avantage comparatif sur ces secteurs-là, sur le secteur de l'innovation. Et bon, on essaye de maintenir cela, et puis d'avoir aussi on a une moyenne d'âge de l'équipe de direction qui est assez basse par rapport aux autres établissements, et je crois que c'est assez important en termes de style qu'on veut donner à l'école. Donc voilà, on essaye de rester fidèle à ça, oui, c'est vrai.
Alors à Lille, il y a également une très grande école de journalisme. Forcément, les ponts sont établis depuis longtemps.
Oui, d'abord, quand Sciences Po Lille a été créée, on était dans les mêmes locaux. Pendant 5 ans, on a cohabité. Et puis, depuis l'année dernière, donc c'est une espèce de retour de l'histoire, depuis l'année dernière, en fait, le diplôme, le concours d'entrée à l'ESJ est aussi un concours d'entrée à Sciences Po Lille. Et donc, désormais, depuis cette année, en fait, depuis 2011-2012, les étudiants qui sont à l'ESJ sont en même temps à Sciences Po et obtiennent, à l'issue de leurs 2 ans, 2 diplômes, l'ESJ et Sciences Po. Donc, ce cousinage historique qu'on avait eu au début parce qu'on partageait les mêmes locaux, bon, maintenant, c'est un cousinage qui est devenu même presque fraternel, et on travaille complètement ensemble, oui, effectivement.
Donc dans vos formations, depuis une année ou deux, comme vous parliez tout à l'heure de démocratisation, vous faites appel aussi à des personnes, à des étudiants qui ne sont pas a priori issus des lycées les plus reconnus, mais au contraire qui viennent parce que le métier les intéresse, enfin les métiers que vous proposez par la suite.
Alors c'est vrai, on est une école publique, il faut le rappeler quand même, et c'est vrai que comme on est une école extrêmement demandée, avec donc des concours extrêmement sélectifs, ça a eu pour conséquence, comme tous les Sciences Po d'ailleurs de France, que les jeunes de milieux, disons, modestes ou plus modestes, souvent se censurent, n'osent pas passer le concours, ou lorsqu'ils le passent, échouent à ce concours. Donc c'est vrai que depuis 4 ans, on a mis en place un très important programme de démocratisation, qui commence depuis la classe de 3e et qui va jusqu'en terminale. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, on s'occupe d'à peu près 500 collégiens et lycéens, et l'objectif, c'est de les amener progressivement à se dire que Sciences Po, ça peut être pour eux, et de les préparer, si jamais ça les intéresse, à passer le concours, mais j'y insiste, à passer le concours normal d'entrée, pas un concours dérogatoire, mais à passer les mêmes épreuves que les autres candidats. Et c'est un programme qui marche assez bien, que maintenant on a nationalisé, qui existe dans 10 académies en France, et avec des taux de réussite qui sont vraiment intéressants. On a à peu près entre 50 et 80 élèves lycéens de milieu modeste qui chaque année intègrent un Sciences Po par l'intermédiaire de ce programme.
On peut imaginer à terme que ces personnes qui vont être ensuite, par exemple, journalistes, pourront mieux témoigner d'une certaine partie de la population qui, pour l'instant, n'était pas très reconnue ni connue par certains journalistes, par exemple.
Oui, alors vous avez complètement raison. L'idée, si vous voulez, le pari, c'est que nous sommes une école qui forme des cadres du privé et du public, et aussi qui forme les journalistes, donc les gens qui, quand même, ont une importance sociale extrêmement importante. Et c'est vrai que quand une école d'une importance sociale aussi forte n'accueille que des élèves de certains milieux, ça pose problème, parce que ça veut dire que c'est une école qui ne respecterait pas la diversité, disons, sociale d'un pays. Donc c'est vrai que l'enjeu pour nous en travaillant à démocratiser le recrutement, l'enjeu c'est que l'école accueille des élèves plus en phase avec la diversité de la société française, et que ces élèves-là, ensuite devenus diplômés et allant travailler, notamment devenant journalistes, puissent faire leur travail en ayant une conscience plus acérée de la diversité sociale, des enjeux de société.
Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Vous venez de remplir le livre d'or de Sciences Po Lille.
Oui, tout à fait. En tant qu'enseignant, intervenant à Sciences Po depuis une dizaine d'années.
Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution dans la maison ?
Alors, j'ai vu les tout débuts de Sciences Po quand j'étais moi-même étudiant. Je venais en voisin écouter certaines conférences, même si je n'étais pas inscrit à Sciences Po. Et ensuite, j'y suis revenu comme enseignant. J'ai vu la maison se développer, le nombre d'élèves progresser, les diplômes se multiplier, les formations se diversifier, la renommée progresser parmi les Sciences Po de province. Donc, j'ai vu vraiment le développement tout à fait remarquable de l'établissement.
Selon vous, qu'attendent les élèves de Sciences Po ?
Je crois qu'ils attendent surtout un regard un peu différent sur le monde moderne. Autre chose en matière de politique ou de culture générale que ce qu'on peut entendre peut-être trop facilement dans des médias ou au café du commerce, avec des guillemets, peut-être un approfondissement sur les principaux sujets. Aller au-delà de la superficialité, aller vraiment au fond des choses et avoir un regard un peu différent, un peu nouveau sur le monde qui nous entoure.
L'envie de balayer ces clichés, est-ce que dans la réalité c'est possible professionnellement ?
Ah oui, c'est tout à fait possible. Je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'à, mais un enseignant à Sciences Po est entièrement libre du contenu de son cours. Donc c'est aussi aux élèves après de faire la part des choses dans la subjectivité inhérente à tout enseignement. Mais l'enseignant qui veut faire autre chose que le regard basique et le discours conventionnel est bien sûr non seulement libre, mais invité à le faire. Si on ne le fait pas là, où le fera-t-on ?
Au niveau des étudiants, est-ce que vous sentez des envies nouvelles ?
Ça dépend, ça dépend vraiment des années et des promotions. On ne peut pas voir une évolution longue. Il y a des envies de démocratie et de politisation plus fortes qu'ailleurs, ce qui est bien logique. On n'entre pas à Sciences Po si on n'est pas intéressé par ce genre de sujet. On l'a vu par exemple lorsqu'il y a eu des conflits sociaux, lorsqu'il y a eu des mobilisations contre certaines réformes étatiques, lorsqu'il y a eu l'occupation de l'IEP par les sans-papiers il y a quelques années. On a vu des mobilisations, des intérêts, des prises de position que peut-être on n'aurait pas vu dans d'autres instituts.
Et le regard sur le monde, est-ce qu'il s'est ouvert en 10 ans ?
Oui, pour une bonne raison, c'est que la troisième année est une année de mobilité obligatoire à l'étranger. Donc les étudiants, même s'ils ne voulaient pas s'ouvrir au monde, sont obligés de le faire, ils ont un an à passer à l'extérieur. Donc par définition, ils reviennent transformés. Moi j'ai vraiment vu, puisque j'encadre régulièrement des stagiaires qui partent à l'étranger un an, j'ai vraiment vu de temps en temps des étudiants faire des stages longue durée extrêmement formateurs et revenir transformés. Il y a un étudiant dont je me souviens particulièrement, pour vous donner juste un exemple, qui était parti dans une école en Inde financée par une organisation, une ONG suisse, et où étaient scolarisés des enfants qui le matin étaient au travail dans une carrière de pierre et qui l'après-midi venaient à l'école avec une joie d'échapper à leur quotidien d'esclave quasiment pour quelques heures. Et je vous assure que ce jeune homme qui est parti insouciant comme on l'est à 20 ans est revenu mûri de façon remarquable. Franchement, je lui ai dit après, j'ai vu partir un gamin, j'ai vu revenir un homme.
C'est une école de la politique mais aussi une école de la réalité.
Oui, de toute façon, la politique efficace, c'est une politique du réel. Donc, c'est pas uniquement, ou c'est même assez peu, une école pour former seulement de futurs dirigeants, futurs élus, candidats, leaders de parti. C'est aussi une école qui forme des gens qui vont être en prise dans leur métier avec le réel, fonctionnaires, cadres de la finance, du commerce, etc. Oui.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes un ancien étudiant de Sciences Po.
Oui, on est deux anciens, mais bien là.
Donc un ancien et une ancienne.
Oui.
Donc comment vous avez vécu votre parcours ici ?
Plutôt bien. Ça a été, quatre riches années, dont une à l'étranger. C'était des rencontres. C'est difficile à résumer en peu de mots, quoi, parce que voilà, c'est une partie de notre vie quand même hein, qu'on a. Récente qu'on a passé là-bas, donc c'était une belle page de notre vie. Ouais.
Ça vous a préparé à un projet professionnel que vous aviez identifié au départ ?
Ah ben oui, moi complètement, même si ça a pris des chemins un peu sinueux, mais je suis rentré à Sciences Po avec l'idée de devenir journaliste et je suis devenu journaliste, donc voilà.
Mademoiselle ?
Je vais pas être très originale parce qu'en fait je suis rentrée à Sciences Po pour être journaliste et je suis devenue journaliste, donc voilà. Et pour la question de comment ça s'est passé, ça s'est très bien passé, également l'année à l'étranger, pour moi le Canada, enfin très bien. J'ai ramené mon mari là-bas, donc en plus du côté professionnel, il y a le côté personnel, donc voilà. Et sinon des bons souvenirs, des amis, et voilà, on les voit pas si souvent d'ailleurs après, donc ce soir c'est plutôt sympa parce que on va revoir tout le monde.
En sortant de Sciences Po pour être journaliste, vous avez choisi une école particulière ?
L'ESJ, ouais.
Donc vous en êtes sorti ?
J'en suis sorti en 2006.
Et vous avez trouvé du travail facilement dans le métier de journaliste ?
Oui, sauf que j'ai quand même choisi de rester indépendante en fait. Donc moi je suis pas salariée, je suis indépendante, mais oui, ça va très bien.
Ça va.
Comment vous voyez l'avenir pour les jeunes générations ?
J'espère aussi fructueux que le nôtre. En plus, ils peuvent bénéficier d'une école qui est en plein dynamisme. Enfin, nous, on était on était aussi dans une bonne école, mais depuis qu'on en est sorti, elle a pris beaucoup, beaucoup d'essor, j'ai l'impression. Enfin, elle s'est pas mal développée, et développé beaucoup de filières, et donc il y a beaucoup plus peut-être de débouchés. Nous, on a été un peu une génération intermédiaire, je crois, et on s'en est bien sorti quand même.
Mais... Si vous aviez un conseil à formuler à ceux qui entrent, par exemple ?
Travailler.
Donc, je m'appelle Yves Luchère. En 91, j'étais doyen de la faculté de droit de Lille. Et Claude Allègre, qui était à l'époque conseiller spécial du ministre Lionel Jospin, m'a demandé de mettre en place l'IEP de Lille en 1991. Et donc, j'ai assumé effectivement cette fonction. Puis après, je me suis consacré exclusivement à l'IEP de Lille, que j'ai dirigé donc depuis les débuts jusqu'en janvier 97.
Voilà, il fallait donc une grande école de ce type à Lille. Comment, après, elle a évolué en fonction de quels besoins ?
On est parti sur un modèle très classique, J'avais le sentiment qu'il fallait tourner l'IEP à la fois vers le tissu industriel de la région Nord et aussi vers l'Europe, puisque Bruxelles était quand même à proximité, que le tunnel sous la Manche se rapprochait de la Grande-Bretagne et que par conséquent, il fallait évidemment tirer profit de ses atouts. Et puis après, les successeurs ont développé l'IEP comme tous les IEP, avec beaucoup de modifications, puisque nous sommes passés d'un cursus de 3 ans à un cursus de 5 ans, et surtout à une grande internationalisation, qui est maintenant une marque importante des IEP.
L'IEP est devenu Sciences Po Lille, fête ses 20 ans. Vous n'y êtes plus, vous avez une certaine nostalgie, vous êtes où maintenant ?
Alors maintenant, pour des raisons d'ailleurs purement familiales, je suis professeur à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence. Mais évidemment, les années lilloises ont été pour moi assez plus qu'agréables. Ça a correspondu à un moment important de ma carrière professionnelle, à la fois comme doyen de la faculté de droit puis comme directeur de l'IEP de Lille. Et donc c'est pour moi beaucoup de nostalgie et beaucoup de plaisir d'y revenir. Je crois que c'est très intéressant de voir un établissement qui est parti pour moi de rien et qui aujourd'hui a une renommée qui se confirme d'année en année.
Bonsoir.
Bonsoir.
Donc vous êtes une ancienne étudiante de Sciences Po, vous continuez des études actuellement ?
Exactement. J'ai continué en faisant en fait un master spécialisé à l'ESSEC qui portait sur tous les sujets un petit peu de l'entreprise, de la finance, de la stratégie, du marketing, pour avoir une vision un peu globale de ça.
Vous aussi ?
Oui, moi aussi, à part que j'ai fait un master spécialisé en marketing, donc vraiment pour se dédier à cette fonction-là. Et là, je suis actuellement en stage de fin d'études, en espérant que ça débouche sur un emploi, oui.
Au départ, ce qui vous a intéressé, c'était d'avoir une culture relativement large que Sciences Po vous a donnée, ou c'était des choses plus pointues ?
Non, justement, si j'avais choisi Sciences Po Lille, c'était vraiment pour avoir un bagage un peu de culture générale et développer des qualités qu'on développe vraiment, à mon avis, beaucoup plus dans cette école, des qualités orales, écrites. Et c'est vraiment en sortant que je me suis rendu compte que, en me comparant à d'autres personnes, c'était vraiment notre qualité première, et donc j'en suis très satisfait, oui, évidemment.
Je suis Jean-Louis Thiébault, je suis professeur de sciences politiques. J'étais pendant longtemps en poste à l'Institut d'études politiques et je suis devenu le directeur de cet institut le 1er janvier 1997 et j'y suis resté pendant 2 mandats, c'est-à-dire jusqu'au 1er janvier 2007.
Qu'est-ce que vous avez apporté concrètement à cette maison ?
Ben, je pense qu'il y a deux choses. Le premier, c'est une volonté d'ouverture, notamment deux types d'ouverture. D'abord une ouverture internationale, c'est-à-dire j'ai pensé qu'il fallait tenir compte de l'emplacement de la situation géographique de Lille et donc de permettre aux étudiants, à partir de là, d'aller soit en stage, soit en études dans des universités étrangères ou des entreprises ou des ambassades, par exemple. Ça, c'était le premier élément. Le deuxième élément, c'est aussi une volonté d'ouvrir socialement, en fait, l'Institut d'études politiques de Lille. Alors, c'est moi qui ai mis en route cette... à la suite de Sciences Po Paris, mais en partenariat à ce moment-là avec Sciences Po Paris, qui est mis en route cette volonté d'ouvrir l'Institut d'études politiques vers ce qu'on appelle les banlieues, vers ce qu'on appelait à ce moment-là les ZEP, etc. Et donc, j'ai commencé en fait à mettre en œuvre ce programme et je crois qu'il continue à l'heure actuelle.
C'était révolutionnaire à l'époque ?
C'était assez révolutionnaire, oui, parce que je pense que il y a eu des réticences. Il y a eu un certain nombre de refus. J'ai dû m'y prendre à deux fois, en fait, pour réaliser ce programme, parce qu'il y avait des réticences qui s'exprimaient, venant de différents milieux, étudiants, professeurs. Et en fait, c'est deux fois, il y a eu deux réunions de conseil d'administration. Et l'un des soutiens les plus forts qui est intervenu et qui m'a permis notamment de faire passer, je crois, ce projet, c'est celui de Pierre Mauroy, qui était membre du conseil d'administration et qui était venu spécialement pour soutenir ce projet.
Alors, le côté international, vous en avez parlé. Maintenant que vous êtes un petit peu, je vais dire, plus disponible, est-ce que l'international vous passionne toujours ?
Oui, et de plus en plus. Il faut dire que j'ai beaucoup travaillé sur la politique comparée et pendant un premier temps, en fait, je travaillais essentiellement sur les pays d'Europe occidentale. C'était dans les années 80 et 90. Et puis, je suis devenu directeur, donc j'ai plus fait de recherche pendant 10 ans. Et c'est à la fin de mon second mandat, lorsque j'ai pensé qu'il serait bien de retrouver mon métier d'enseignant et de chercheur, surtout, que j'ai décidé de travailler sur une analyse politique des pays émergents. Et donc, j'ai voyagé beaucoup pour connaître ces pays émergents, notamment en Asie. Je suis allé en Chine, je suis allé en Inde, je suis allé à Singapour. Et puis ensuite, j'ai décidé également de consacrer une partie de mon temps à l'enseignement et notamment dans des universités étrangères. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé au Canada et aux États-Unis depuis 4 ans.
Ce sujet a été réalisé par René Lavergne de Radio Campus.